L'ordre du jour appelle une déclaration de politique générale du gouvernement faite en application de l'article 49, alinéa 1er de la Constitution et le débat sur cette déclaration. La parole est à Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, au commencement d'une session parlementaire qui nous mènera jusqu'à l'été 1997, j'estimais normal et utile de vous présenter les grandes orientations de la politique que nous allons conduire ensemble. Il est en effet normal et utile, à mes yeux, qu'avant d'entrer dans la discussion des textes qui seront inscrits à votre ordre du jour, le gouvernement et sa majorité parlementaire puissent réaffirmer leur accord sur l'essentiel. Les Français l'attendent. Ils l'attendent d'autant plus que notre pays vit une période de mutation qui est longue, qui est difficile, où chacun cherche des repères et des perspectives. Nous connaissons bien les raisons du malaise que vit aujourd'hui la société française et je ne m'y attarderai pas. Bien sûr, d'abord et avant tout, le chômage. Mais aussi le sentiment de beaucoup de nos concitoyens que l'État est lointain, bureaucratique, archaïque, éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. Et puis la peur de ce phénomène qui a été analysé, la peur de la mondialisation, qui remet en cause toutes les certitudes et toutes les habitudes. Face à tous ces défis, nous avons des atouts, et ils sont considérables. La qualité de nos ressources humaines, de nos hommes, de nos femmes, le dynamisme de nos entrepreneurs, de nos jeunes entrepreneurs, souvent, l'excellence de notre recherche, les performances de nos secteurs de pointe, et la place de notre pays, dans l'Europe et dans le monde, qui a été incontestablement très renforcé depuis un an et demi. Pour tirer le meilleur parti de ces atouts, il nous faut insuffler à nos concitoyens l'esprit de réforme, l'esprit de conquête. Et pour cela, notre responsabilité, la mienne tout particulièrement, est de tracer quelques orientations claires. C'est ce que je voudrais essayer de faire le plus brièvement possible aujourd'hui devant vous. Première grande orientation. Compléter, renforcer, dynamiser notre politique pour l'emploi. La politique que nous menons depuis un an et demi repose sur quelques convictions toutes simples. La première, c'est qu'il n'y aura pas d'emploi s'il n'y a pas de croissance et qu'il n'y aura pas de croissance sans de bonnes finances pour la France et pour les Français. Et c'est cette orientation qui inspire les grands textes que vous allez avoir à débattre dès le début de la session parlementaire. D'abord, le projet de loi de finances pour 1997, qui est un texte profondément original, puisque c'est la première fois depuis bien des décennies que l'État va maîtriser ses dépenses. Ça ne s'était jamais produit depuis de longues années, ce qui lui permettra de ramener l'ensemble des déficits publics à 3% de notre richesse nationale. Cet objectif est tout à fait à notre portée et je voudrais souligner, ça ne vous a pas échappé, j'en suis sûr, qu'en 1995, nous avons fait mieux que l'objectif que nous nous étions fixés à nous-mêmes, puisque les derniers chiffres montrent que le déficit public est inférieur à 5%, très exactement 4,8% de la richesse nationale, grâce aux mesures que nous avons prises l'an dernier. Ce projet de loi de finances comportera aussi une réforme sans précédent de l'impôt sur le revenu. Et je voudrais, sans m'y attarder, rappeler quelques-unes de ses caractéristiques essentielles. C'est d'abord une réforme juste. parce qu'elle met un terme à la profonde injustice qu'ont vécu les contribuables depuis une quinzaine d'années et qui a consisté à pénaliser systématiquement les revenus du travail au profit des revenus du capital, de l'argent qui dort et de la rente. Et cela, nous allons le changer. C'est ensuite une réforme ambitieuse, puisqu'on ne s'est jamais fixé pour objectif de réduire d'un quart l'impôt sur le revenu en 5 ans. C'est en troisième lieu une réforme durable qui ouvre des perspectives, puisque je vous proposerai de voter le barème de l'impôt sur le revenu pour 5 années. Et enfin, c'est une réforme simple, puisqu'elle consiste tout simplement à baisser tous les taux de toutes les tranches du barème. Le deuxième acte fort de cette session qui commence sera le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est à lui seul une sorte de révolution dans la manière d'aborder le problème de l'équilibre de la sécurité sociale. Ce n'est, vous l'avez bien compris, évidemment pas l'un de ces énièmes plans élaborés en catastrophe comme on en a vécu pendant 10 ans, c'est le premier rendez-vous annuel entre le Parlement, c'est-à-dire la nation, et sa sécurité sociale, et cela est une innovation de première grandeur. Vous aurez ainsi l'occasion de faire avancer la réforme qui se met en place et qui se concrétisera, j'en prends un seul exemple, en particulier, par l'apparition au mois d'octobre du carnet de santé qui sera généralisé aux millions d'assurés sociaux d'ici l'été prochain et qui sera l'un des instruments de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Troisième instrument, enfin, dans cette politique de rétablissement de la bonne santé de nos finances, la stabilité de la monnaie, qui assure la baisse des taux d'intérêt. Ces taux aujourd'hui, pour ce qui concerne le long terme, s'approchent de 6%. Il pourrait même, je ne veux pas faire évidemment de pronostic en ce domaine, mais j'écoute ce qu'on dit ici ou là, franchir cette barre des 6% à la baisse, ce qui constitue des taux historiquement bas. Ainsi est crédibilisée la marche vers la monnaie unique, qui a fait des progrès à Dublin récemment, avec notamment la mise en place d'un système monétaire européen pour les pays qui n'entreront pas d'emblée dans la monnaie unique. Il y a là, j'ai eu souvent l'occasion de le dire devant vous, non seulement une ambition technique, si je puis dire, et économique, mais plus encore, un véritable projet politique qui est le seul à même de renforcer l'Union européenne au moment où elle va s'élargir et dans un monde qui s'organise. Et je le dis à tous ceux qui, parfois, se laissent emporté par un peu d'euroscepticisme, alors que l'Amérique du Nord fait l'ALENA, alors que l'Amérique du Sud fait le Mercosur, alors que l'Asie fait l'ASEAN, nous laisserions, nous, l'Union européenne, se séparer ou se fragiliser? L'Union économique et monétaire, la monnaie unique, seront, j'en suis sûr, la locomotive de cette Europe dont nous avons besoin dans le monde du XXe siècle qui va émerger. Cet assainissement de notre situation économique commence à donner de premiers signes encourageants. Les bases de notre économie sont solides, l'inflation est jugulée. Il a fallu tant d'années pour le faire que je suis parfois surpris d'entendre tel ou tel s'en démouvoir. Notre commerce extérieur est fortement excédentaire. Nos taux d'intérêt, je l'ai dit tout à l'heure, sont historiquement bas. Quant aux perspectives de croissance pour 1997, elles sont positives. L'enquête de conjoncture de l'INSEE, qui a été publiée il y a 2 jours, montre que pour la première fois depuis bien longtemps, les indicateurs sur la production récente, sur les carnets de commandes, sur le niveau des stocks, s'améliorent simultanément. Et cette croissance qui revient est désormais, comme le disait tout à l'heure Jacques Barrot, une croissance plus riche en emplois, grâce notamment à ce que vous avez décidé pour la baisse des charges sur les entreprises de main-d'œuvre peu qualifiées, le passage notamment au 1er octobre à une nouvelle étape de la ristourne sur les charges sociales va constituer, j'en suis sûr, pour nos entreprises, un ballon d'oxygène considérable. Voilà donc le premier axe de cette stratégie pour l'emploi. Le deuxième, c'est qu'il n'y a évidemment pas, il n'y aura évidemment pas d'inversion durable de la courbe du chômage sans une croissance nouvelle, sans une croissance précisément plus riche en emploi. Enrichir la croissance en emploi, c'est d'abord aider nos PME. Je viens de dire ce que nous avons fait en matière d'allègement des charges. 46 milliards de baisse des charges sociales sur les exercices 95 et 96. Et ça marche, je le répète. Cela permet d'enrichir la croissance en emploi. Une aide au financement qui se met en place puisque la Banque de développement des PME sera opérationnelle dans les tout prochains jours. Il nous faut faire plus pour les PME, plus pour la création d'entreprises. Et dans ce domaine, il ne suffit pas de distribuer des aides. Il faut aussi évaluer la qualité des projets de façon que la mortalité d'entreprise ne soit pas aussi élevée que la natalité d'entreprise, et nous vous ferons des propositions en ce sens. Il faut aussi aider nos PME à l'exportation, et l'un des moyens les plus efficaces de les y aider, c'est de permettre aux jeunes Français, aux jeunes Françaises, d'aller travailler à l'étranger beaucoup plus qu'ils ne le font. Nous avons dans ce domaine un retard considérable par rapport à ce qui existe dans beaucoup des pays comparables d'Europe. Aider les PME, ce sera aussi réformer le code des marchés publics, et nous vous ferons des propositions en ce sens, de façon que les collectivités publiques puissent acheter mieux, sans être toujours paralysées par des règles trop rigides. Il faut aussi que les entreprises en général, et les PME en particulier, disposent d'un cadre juridique clair, modernisé, efficace. Et c'est la raison pour laquelle, sur la base des travaux parlementaires qui ont été effectués depuis plusieurs mois, je vous proposerai, en 1997, une réforme ambitieuse du droit des sociétés. Aider les PME, développer aussi les emplois de proximité, deuxième manière d'enrichir la croissance en emploi. Nous avons fait dans ce domaine beaucoup. Les emplois de ville, les contrats initiative emploi qui ont été ouverts aux jeunes sans qualification. Il faut aller de l'avant. Et le 1er janvier prochain, nous irons de l'avant. En concrétisant l'un des engagements du président de la République pendant sa campagne électorale, je veux parler de la prestation autonomie qui commencera à se mettre en place. Toute l'expérience qui a été faite sur ce sujet montre que pour 4 personnes âgées dépendantes prises en charge par la collectivité, on crée un emploi à temps plein. Ce sera donc une mesure puissante pour aider à la création d'emplois de proximité. Dans le même esprit, la loi de cohésion sociale qui vient d'être transmise au Conseil économique et social, et que j'y reviendrai, qui est un projet de loi d'une très grande ambition, prévoit la création de 300 000 contrats d'initiative locale en 5 ans pour réaliser là aussi un engagement que nous avions pris et qui consiste à mobiliser l'argent pour payer des jeunes en difficulté afin qu'ils travaillent plutôt que de les enfermer dans la prison de l'assistance où ils se trouvent trop longtemps aujourd'hui cantonnés. Enrichir la croissance en emploi, c'est aussi favoriser le temps choisi. Aménager le temps de travail, le réduire, on connaît le débat, on sait en tout cas ce qu'il ne faut pas faire. On sait les erreurs qu'il ne faut pas commettre, puisqu'on les a déjà commises il y a quelques années. Il ne faut pas, comme dit le président de la République, de prêt-à-porter, mais du sur-mesure. Et c'est dans cet esprit-là que nous poursuivrons dans la voie de la promotion du temps choisi. C'est la philosophie qui inspire le projet de loi que vous avez voté récemment, projet de loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, adopté à l'initiative de la majorité parlementaire. Et je peux vous dire, comme le confirmait tout à l'heure M. Barrot, que l'ensemble du dispositif qui va permettre à cette loi de donner ses premiers effets est désormais opérationnel. Il faut là encore aller plus loin. Et ce sera l'objet du rendez-vous que nous nous sommes fixés, partenaires sociaux et gouvernement, sur la réduction du temps de travail avant la fin de cette année. Des PME davantage aidées, le temps choisi encouragé, les emplois de proximité développés, enfin, amplifier l'alternance et les efforts que nous avons faits pour insérer les jeunes dans la vie de travail. L'apprentissage a été réformé et rénové. 400 000 apprentis aujourd'hui existent dans notre pays. Il faut aller plus loin. Et cela sera l'un des axes forts de la réforme de l'éducation nationale, dont les principes et les objectifs ont été fixés après une très large concertation qui a abouti à un accord général de la communauté universitaire. Il y a là une grande ambition, peut-être la plus grande ambition du gouvernement pour les années qui viennent, et qui commence à se mettre en œuvre en 1997 avec un budget de l'éducation nationale qui augmente, contrairement à la majorité des autres budgets. Je voudrais même souligner que le budget de l'enseignement supérieur qui vous est proposé est en augmentation de plus de 5% l'année prochaine, ce qui, compte tenu de la dureté des temps, marque bien la priorité que nous voulons réserver à l'éducation de nos jeunes.